Chapitre 21. Ilium. Je pourrais vous décrire ce que l'on ressent en faisant l'amour à Hélène de Troie. Mais je n'en ferai rien. Et pas seulement parce que je ne tiens pas à passer pour un goujat. Ces détails ne font pas partie de mon récit, tout simplement. Je peux cependant vous dire, le plus sincèrement du monde, que si une muse vengeresse ou une Aphrodite en furie m'avait découvert un instant après qu'Hélène et moi eûmes achevé notre première étreinte, disons une minute après que nous nous fûmes séparés pour souffler un coup sur les draps humides de sueur, caressés par la brise annonciatrice de la tempête, si la muse ou la déesse m'avait anéanti à ce moment-là, je peux vous affirmer sans craindre de me contredire que la seconde et brève existence de Thomas Hockenberry aurait été fort heureuse. Au moins, se serait-elle achevée dans la félicité. Une minute après cet instant de perfection, Hélène pointait une dague sur mon ventre. « Qui es-tu ? » demanda-t-elle. « Je suis ton... » J'ai laissé ma phrase inachevée. Quelque chose dans les yeux d'Hélène me dissuadait de me faire passer pour Paris. « Si tu affirmes être mon nouvel époux, je serai obligé de plonger cette lame dans tes entrailles, » déclara-t-elle d'une voix posée. « Si tu es un dieu, cela n'aura guère d'importance. Mais si tu n'en es pas un... »«
Je ne suis pas un dieu !» hoquetai-je. La pointe de la lame était suffisamment proche de ma peau pour y faire perler une goutte de sang. Mais d'où sort ce couteau ? Était-il planqué sous les coussins pendant que nous faisions l'amour ?
Si tu n'es pas un dieu, comment as-tu fait pour prendre la forme de Paris ?
Je me suis rappelé que je me trouvais en présence d'Hélène de Troie, fille mortelle de Zeus, une femme vivant dans un univers où les dieux et les déesses couchaient tout le temps avec les mortels. Un monde grouillant de créatures, divines ou non, douées du pouvoir de métamorphose. Un monde où le concept de causalité n'avait pas le sens que je lui donnais, loin de là. Les dieux m'ont donné la capacité de me mordre, de changer d'apparence, dis-je.
Qui es-tu? Quelle sorte de créature es-tu?
Elle ne semblait ni furieuse, ni vraiment choquée. Sa voix était neutre, ses traits splendides vierges de peur comme de colère. Mais la lame pointée sur mon ventre ne tremblait pas. Cette femme exigeait une réponse.
Je m'appelle Thomas Hockenberry. Je suis un scoliaste. Tout cela ne signifierait rien pour elle, et je le savais. Mon nom paraissait étrange à mes propres oreilles, trop guttural dans cette langue antique et mélodieuse. « Thomas Hockenberry », articula-t-elle. « On dirait un nom perse. »
« En fait, il a des origines bataves, germaniques et irlandaises », déclarai-je. Je vis Hélène plisser le front et compris que non seulement mes propos n'avaient aucun sens pour elle, mais qu'en outre, je devais lui paraître complètement cinglé.
« Mets une robe, » dit-elle. « Allons discuter sur la terrasse. »
La vaste chambre d'Hélène était pourvue de deux terrasses, la première donnant sur la cour, la seconde sur les quartiers est et sud de la ville. Mon harnais de lévitation ainsi que le reste de mon attirail, exception faite du médaillon têtu et du bracelet de morphing, étaient planqués sur la terrasse côté cour. Hélène me conduisit sur l'autre. Nous étions tous deux vêtus d'une robe légère. Hélène ne lâcha pas sa dague tandis que nous conversions, accoudés à la rambarde, éclairés par les lumières de la ville et par les éclairs intermittents.
« Es-tu un dieu ? » s'enquit-elle. Je faillis répondre par l'affirmative. Cela la convaincrait peut-être d'écarter cette lame de mon ventre. Mais je fus pris d'une soudaine et irrésistible envie de dire la vérité, pour une fois. « Non, je ne suis pas un dieu. » Elle acquiesça. « Je le savais. Je t'aurais étripé comme un poisson si tu m'avais menti sur ce point. »
Elle eut un sourire sombre.
« Tu ne fais pas l'amour comme un dieu. »
« Tiens donc, » pensais-je, mais je n'avais rien à répondre à cela.
« Comment se fait-il que tu puisses prendre la forme de Paris ?»«
Les dieux m'en ont donné la capacité. »
« Pourquoi ?»
La pointe de la dague n'était plus qu'à quelques centimètres de ma chair que protégeait un fin voile de tissu. Je haussai les épaules, puis me rappelant que ce geste était inconnu dans le monde antique, je déclarai « pour des raisons qui leur appartiennent ». J'observe la guerre et je leur fais mon rapport. Cela m'aide de pouvoir prendre la forme de... d'autres hommes. Hélène ne semblait nullement surprise.
Où est mon amant troyen? Qu'as-tu fait du vrai Paris?
Il n'a rien. Quand j'abandonnerai son apparence, il reviendra à ce qu'il était en train de faire lorsque je me suis morphé, lorsque j'ai pris sa forme.
Où se trouvera-t-il?
Cette question me parut quelque peu étrange. Là où il se serait trouvé si je n'avais pas emprunté sa forme? Je crois qu'il vient de quitter la ville pour rejoindre Hector en vue des affrontements de demain. En fait, lorsque je quitterai l'aspect de Paris, celui-ci se trouvera exactement là où il se serait trouvé s'il avait normalement poursuivi ses activités pendant la période où j'ai endossé son identité, en train de dormir dans une tente, ou alors en plein combat, ou occupé à se taper une esclave dans le camp d'Hector. Mais tout cela était trop difficile à expliquer. Je ne pensais pas qu'Hélène apprécierait une conférence sur les fonctions d'ondes probabilistes et la simultanéité temporelle quantique. Et j'aurais été infoutu de lui expliquer pourquoi ni Paris, ni ses camarades n'auraient remarqué son absence, ni comment il se faisait que l'Iliade poursuivrait tant bien que mal son cours, comme si je n'avais pas interrompu l'effondrement de l'onde probabiliste de cette ligne temporelle. La continuité quantique allait peut-être se rabibocher dès que j'aurais désactivé la fonction morphine.
Ah, et puis merde, je n'y comprenais goutte, point final.
Abandonne cette forme, ordonna Hélène. Montre-moi ton véritable aspect.
Madame, si je... Elle ne me laissa pas le temps de protester. D'un geste vif, elle leva son arme et la lame déchira soie et peau pour faire couler un peu de sang. Prenant soin de lever la main droite et de la bouger le plus lentement possible, j'ouvris la console lumineuse de mon bracelet et touchai l'icône appropriée. Et je redevins Thomas Hockenberry, un homme plus petit, plus maigre, moins musclé, avec des yeux de myope et un crâne dégarni. Hélène battit des cils et leva sa dague une nouvelle fois, plus vite que je ne l'aurais cru possible. J'entendis un bruit de déchirure, mais ce n'était pas mes abdominaux qu'elle tailladait, rien que le tissu de ma robe.
« Ne bouge pas, »
murmura-t-elle. Hélène de Troie écarta les pans de ma robe, l'empoignant de sa main libre, pour la faire glisser le long de mon corps. Et je restais là, nu et pâle, face à cette femme redoutable. Une photographie de cet instant aurait convenu à merveille pour illustrer le mot « pathétique » dans un dictionnaire.
« Tu peux te rhabiller, »
dit-elle au bout d'une minute. J'ai repassé ma robe. Comme la ceinture était déchirée, j'ai dû tenir les pans avec mes mains. Hélène était plongée dans ses réflexions. Nous sommes restés sans rien dire pendant plusieurs minutes. En dépit de l'heure tardive, les tours d'hélium brûlaient de tout leur feu. Dans le lointain, des torches luisaient sur les remparts. Encore plus loin, au sud, par-delà les portes C, on apercevait les bûchers funèbres. Au sud-ouest, des éclairs déchiraient les lourds nuages noirs. On ne voyait aucune étoile dans le ciel et le vent apportait l'odeur de la pluie tombant sur le mont Ida. « Comment as-tu su que je n'étais pas Paris ?» demandai-je finalement. Arrachée à sa rêverie, Hélène battit des cils et m'adressa un petit sourire.
« Une femme peut oublier la couleur des yeux de son amant, le ton de sa voix ou même le dessin de son sourire ?» Mais elle n'oublie pas la façon dont son mari la baise.
Ce fut à mon tour de tiquer, et pas seulement à cause de sa vulgarité. Homère ne cessait de chanter les louanges de Paris. Rappelez-vous comme il le compare à un étalon lorsqu'il le décrit suivant Hector au combat. Sûr de ses pieds agiles, il porte haut la tête, sur ses épaules voltige sa crinière, sûr de sa force éclatante. Un beau mec, comme auraient dit les adolescents de mon époque. Et comme je m'étais couché dans le lit d'Hélène, j'avais les longs cheveux de Paris, son corps bronzé par le soleil, son ventre plat, ses muscles luisants, son...
« Ton pénis est plus gros »,
ajouta Hélène. Je tiquais une nouvelle fois, et à deux reprises. Ce n'était pas le mot « pénis » qu'elle avait employé, évidemment. Le latin n'était pas encore un langage. Et le terme grec qu'elle avait prononcé était proche de « bite » sur l'échelle de la vulgarité. Mais cela n'avait pas de sens. Lorsque nous avions fait l'amour, j'avais le pénis de Paris.
Non, ce n'est pas ainsi que j'ai su que tu n'étais pas mon amant.
On aurait dit qu'elle lisait dans mes pensées.
Je fais une observation. Voilà tout.
Alors, de quelle façon ?
Oui. C'est à cause de la façon dont tu m'as honoré, Hockenberry.
Je n'avais aucun commentaire à faire et si j'en avais eu un, je n'aurais pas pu l'articuler. Hélène sourit une nouvelle fois.
La première fois que Paris m'a possédée, cela ne s'est pas passé à Sparte où il m'a conquise, ni à Ilium où il m'a emmenée, mais sur un îlot de Cranae en venant ici.
À ma connaissance, il n'existait aucune île du nom de Cranae, un mot qui signifiait tout simplement « rocheux » en grec ancien. Je supposais donc que Paris avait interrompu leur voyage pour débarquer sur quelque îlot rocheux anonyme et se taper Hélène à l'écart de son équipage. Ce qui signifiait que Paris était impatient. « Comme tu l'as été, Hockenberry, » déclara une voix qui était peut-être celle de ma conscience. Elle arrivait bien tard.
« Depuis lors, il m'a possédé, et je l'ai possédé des centaines de fois, »
chuchota Hélène.
« Mais jamais comme cette nuit. Jamais comme cette nuit. »
J'étais partagé entre la suffisance et la confusion. Me lançait-elle des fleurs? M'adressait-elle un compliment? Non, un instant, c'était ridicule. À en croire Homère, Paris possédait un charme et une beauté quasi divins. C'était un amant fabuleux, irrésistible aux yeux des déesses comme à ceux des mortels. Ce qui signifiait qu'Hélène voulait dire
« Tu étais ?»
reprit-elle, mettant un terme au tumulte de mes pensées.
« Tu étais consciencieux. »
Consciencieux. J'ai empoigné le tissu de toutes mes forces et me suis abîmé dans la contemplation des cieux tourmentés pour dissimuler ma gêne. Consciencieux.
Et sincère,
ajouta-t-elle.
Très sincère.
Si elle continuait de se creuser la tête pour trouver des synonymes à pathétique, je risquais de lui arracher son couteau pour me trancher la gorge.
Est-ce que ce sont les dieux qui t'ont envoyé ici?
J'ai de nouveau envisagé de mentir. Cette femme, si déterminée soit-elle, hésiterait avant d'étriper un envoyé des dieux. Mais j'ai de nouveau opté pour la vérité. Hélène de Troie semblait bel et bien capable de lire dans mes pensées.
Et ça me faisait un bien fou de dire enfin la vérité.
Non. Personne ne m'a envoyé.
Tu es venu ici uniquement parce que tu avais envie de coucher avec moi?
Enfin, elle se décide à être un peu moins vulgaire.
Oui.
Je veux dire, non. Elle m'a fixé sans rien dire. Quelque part dans la ville, un homme est parti d'un grand rire, bientôt imité par une femme. Ilium ne dort jamais. Je me sentais seul, expliquai-je. Je suis ici depuis le début de la guerre, sans pouvoir parler à quiconque, sans pouvoir toucher quiconque.
Tu m'as bien touché,
coupa Hélène. Je n'aurais su dire si c'était un sarcasme ou une accusation. Oui, fis-je.
Es-tu marié, Hockenberry?
Oui, non. J'ai secoué la tête une nouvelle fois. Elle devait me prendre pour un débile. Je pense avoir été marié, précisai-je. Mais si tel est le cas, alors ma femme est morte.
Tu penses avoir été marié?
Les dieux m'ont fait venir sur l'Olympe depuis un autre lieu et un autre temps. Je savais qu'elle ne comprendrait goutte à mes propos, mais je m'en fichais. Je pense que je suis mort et que les dieux m'ont ramené à la vie. Mais ils ne m'ont pas rendu tous mes souvenirs. Il me revient sans cesse des images de mon autre vie, de ma vraie vie. Comme des rêves.
« Je comprends, »
dit Hélène. À mon grand étonnement, je me rendis compte au ton de sa voix qu'elle comprenait bel et bien.
« Sers-tu un dieu ou une déesse en particulier, Hockenberry ?»«
Je fais mes rapports à l'une des muses, mais j'ai appris hier que c'était Aphrodite qui contrôlait mon destin. » Hélène leva les yeux, surprise.
« Tout comme elle a contrôlé le mien, »
dit-elle à voix basse.
hier encore, lorsqu'elle a sauvé Paris de la colère de Ménélas pour le reconduire dans notre lit. Aphrodite m'a ordonné d'aller à lui. Comme je lui résistais, elle s'est mise en rage et m'a menacé de susciter à mon encontre des haines sinistres. Ce sont là ses propres paroles, chez les Troyens et les Achéens. La déesse de l'amour, murmurai-je. La déesse de la luxure, répliqua Hélène. Et je m'y connais en luxure, Oakenberry. Je me retrouvai à nouveau sans voix. Ma mère s'appela Léda, la fille de la nuit, reprit-elle sur le ton de la conversation. Et Zeus est venu à elle pour la baiser alors qu'il avait pris la forme d'un cygne, un grand cygne en érection. Dans ma maison, il y avait une fresque dépeignant mes deux frères, un autel consacré à Zeus et l'œuf qui m'abritait. Je n'ai pu m'empêcher de rire. Puis mes abdominaux se sont contractés dans l'attente du coup de dague qui allait les déchirer. Mais Hélène a eu un large sourire.
Oui. Je sais ce que signifie être un pion à la merci des dieux, Oakenberry.
Oui.
Quand Paris est arrivé à Sparte,
non.
Alors que j'avais 11 ans, Oakenberry, j'ai été enlevé, arraché au temple d'Artémis Ortia, par Thésée, l'unificateur de l'Attique. Thésée m'a engrossé. Je lui ai donné une fille, Iphigénie, et comme je ne pouvais l'aimer, je l'ai confiée à Clytemnestre, qui l'a élevée avec son époux Agamemnon, comme s'il s'agissait de leur propre enfant. Mes frères m'ont sauvé de ce mariage et m'ont ramené à Sparte. Ensuite, Thésée a accompagné Héraclès, quand il est allé guerroyer contre les Amazones, en profitant pour envahir l'enfer, épouser une Amazone et explorer le labyrinthe du Minotaure en Crète.
J'avais la tête qui tournait. Dans cette histoire, le moindre personnage, qu'il soit achéen, troyen ou divin, saisissait la moindre occasion pour raconter sa vie. Mais quel rapport avec
« Je sais ce qu'est la luxure, Oakenberry. » Le grand roi Ménélas m'a proclamé son épouse, bien que les hommes comme lui préfèrent les vierges aux autres femmes et leur lignée à tout le reste, bien que je sois une femme souillée dans ce monde d'hommes friands de vierges. Et puis Paris, aiguillonné par Aphrodite, est venu m'enlever et m'emmener à Troie pour y être son trophée.
Hélène interrompit sa tirade et sembla m'examiner. Je ne trouvais strictement rien à dire. Ces paroles d'une ironie glaciale dissimulaient une amertume sans fond. Non, ce n'était pas de l'amertume, compris-je en voyant ses yeux. C'était de la tristesse. Une terrible et épuisante tristesse.
Oakenberry,
reprit-elle.
Penses-tu que je suis la plus belle femme du monde? Es-tu venu ici pour me ravir?
Non, je ne suis pas venu ici pour te ravir. Je ne puis t'emmener nulle part.
Mes propres jours sont comptés du fait de la colère des dieux. J'ai trahi ma muse et sa patronne Aphrodite. Et lorsque celle-ci sera guérie des blessures que Diomède lui a infligées hier, elle me fera disparaître de la surface de la terre, aussi sûr que nous sommes ici tous les deux.
Ah oui,
fit Hélène.
Oui. Viens au lit, Oakenberry.
Je m'éveille durant l'heure grise qui précède l'aurore, et je me sens reposé, bien que je n'ai dormi que quelques heures à l'issue de nos deux dernières étreintes. Je tourne le dos à Hélène, mais je sais qu'elle aussi est réveillée, étendue sur ce grand lit au montant ouvragé.
Oakenberry?
Oui.
De quelle façon sers-tu Aphrodite et les autres dieux?
Je réfléchis une minute, puis je me retourne. La plus belle femme du monde est allongée dans la pénombre, appuyée sur son coude, et ses longs cheveux noirs, que nos étreintes ont mis en désordre, cascadent sur son bras et son épaule nue. Ses grands yeux noirs me fixent intensément.
Que veux-tu dire?
Lui demandai-je, bien que je le sache parfaitement.
Pour quelle raison les dieux t'ont-ils fait venir d'un autre lieu et d'un autre temps, ainsi que tu l'as dit, afin que tu les serves? Que sais-tu donc qui leur est si utile?
Je ferme les yeux un instant. Comment lui expliquer?
Ce serait une folie que de lui dire la vérité. Mais,
comme je l'ai déjà admis, je suis terriblement las des mensonges. Je sais des choses sur cette guerre.
Je connais une partie des événements qui vont survenir.
Qui vont peut-être survenir.
Tu es au service d'un oracle?
Non.
Tu es un prophète alors? Un prêtre auquel les dieux ont fait le don de la voyance?
Non.
Alors je ne comprends pas.
Je me redresse en position assise, m'adossant au coussin pour être plus à l'aise. Il fait encore nuit, mais un oiseau se met à chanter dans la cour.
Dans le lieu d'où je viens, dis-je dans un murmure, il existe un poème épique consacré à cette guerre. Il s'appelle l'Iliade. Jusqu'ici, les événements de cette guerre ressemblent à ceux décrits dans ce poème.
Tu parles comme si ce siège et cette guerre s'étaient déroulés dans le lointain passé de ce lieu d'où tu viens. Comme si tout cela s'était déjà produit.
Ne va pas lui dire qu'elle a raison, ce serait de la folie. Oui, admets-je, c'est la vérité.
Tu es l'une des Moires?
Non, je ne suis qu'un homme.
Hélène a un sourire salace. Elle se caresse les seins là où j'ai joui quelques heures plus tôt.
Je le sais, Auchenberry.
Je rougis, je me frotte les joues et les trouve râpeuses. Ce matin, je ne pourrais pas retourner dans mon baraquement afin de me raser.
Pourquoi faire? Tu n'as plus que quelques heures à vivre.
Répondras-tu à mes questions sur l'avenir?
Demande-t-elle d'une voix horriblement douce.
Ce serait de la folie pure. Je ne connais pas vraiment ton avenir, éludai-je.
Je ne connais que les détails de ce poème, et la réalité s'en est déjà éloignée à plusieurs reprises.
Répondras-tu à mes questions sur l'avenir?
Elle pose une main sur mon torse.
Oui, dis-je.
Est-ce qu'Ilium est condamné?
Demande Hélène d'une voix posée, calme, douce.
Oui.
Sera-t-elle prise par la force ou par la ruse?
Tu ne peux pas lui dire tout ça, pour l'amour de Dieu.
Par la ruse. Et elle sourit.
Odysseus,
murmure-t-elle. Je ne dis rien. Si je m'abstiens d'entrer dans les détails, peut-être que mes révélations n'affecteront pas le cours des choses.
Paris périra-t-il avant la chute de Troie?
Oui.
De la main d'Achille?
N'entre pas dans les détails, hurle ma conscience.
Non, dis-je.
Et toi, va te faire foutre, lançai-je à ma conscience.
Et le noble Hector?
La mort. Dis-je me faisant l'effet d'être un juge sanguinaire.
De la main d'Achille?
Oui.
Et Achille? Rentrera-t-il vivant chez lui?
Non.
Son destin est scellé dès l'instant où il tue Hector, et il le sait depuis le début, grâce à cette prophétie qu'il a rongée comme un cancer pendant des années. La gloire ou la vie? D'après Homère, telle est la décision qu'il a dû... qu'il devra prendre. Mais, comme le précise cette prophétie, s'il choisit la vie, il ne sera qu'un homme comme les autres. Jamais il n'acquerra la réputation de demi-dieu que lui vaudra son combat contre Hector. Cela dit, il a encore le choix. Le futur n'est pas écrit d'avance.
Et Sir Priam?
La mort, dis-je dans un murmure rauque. Massacré dans son propre palais, dans son temple consacré à Zeus, réduit en pièces comme une génisse offerte en sacrifice aux dieux.
Et Scamandrios, le fils d'Hector, que le peuple appelle Astyanax.
La mort. Je ferme les yeux pour ne pas voir Pyrrhos jetant l'enfant du haut des remparts.
Et Andromaque,
chuchote Hélène.
La femme d'Hector.
L'esclavage. Si Hélène poursuit cette litanie de questions, je vais sûrement devenir fou. Le sort des Troyens n'affectait guère le scoliaste que je suis lorsqu'il se cantonnait au rôle d'observateur pratiquant la distanciation. Mais j'évoque à présent des gens que je connais, que j'ai rencontrés, parfois intimement. Je réalise soudain qu'Hélène ne m'a pas interrogé sur son sort. Peut-être ne le fera-t-elle pas.
Et moi? périrai-je avec Ilium ?
Demande-t-elle toujours aussi calme. Je reprends mon souffle. Non.
Mais Ménélas va me retrouver.
Oui. Je me sens dans la peau d'une voyante esclave de sa boule de cristal. Pourquoi ne me contentais-je pas de réponses ambiguës, un peu à la façon de la Pythie de l'oracle de Delphes ? L'avenir reste flou, ou encore repose ta question. Chercherais-je à impressionner cette femme ? Trop tard pour revenir en arrière.
Ménélas me retrouve, mais ne me tue point. Je survis à sa colère.
Oui. Je me rappelle la façon dont Odysseus le raconte dans l'Odyssée. Ménélas déniche Hélène dans les appartements de Déiphobe, au cœur du palais royal, près de l'hôtel du Palladium, et le mari cocu tire son épée, bien décidé à oxyre la femme infidèle. Mais Hélène se dénude les seins devant lui, comme pour l'inviter à frapper. Et Ménélas lâche son arme pour lui donner un baiser. Difficile de dire si Déiphobe le Priamide est tué avant ou après cette scène.
Mais il me ramène à Sparte.
Murmure Hélène.
Paris, Hector, tous les valeureux guerriers d'Ilium sont passés au fil de l'épée. Les belles femmes de Troie sont tuées ou réduites en esclavage. La cité elle-même est incendiée, ses murs abattus, ses tours renversées. On répand du sel sur la terre afin que plus rien n'y repousse. Mais je survis pour que Ménélas me ramène à Sparte. Quelque chose comme ça.
Dis-je, pitoyable. Hélène roule sur elle-même, se lève et sort toute nue sur la terrasse côté cour. L'espace d'une minute, j'oublie de jouer les Cassandres pour contempler, émerveillée, ses cheveux noirs cascadant sur son dos, ses fesses parfaites et ses jambes fermes. Accoudée à la rambarde, elle me lance sans même se retourner.
« Et toi, Orkenberry ?» Les moires t'ont-elles confié ton destin dans leur poème ?
Non, je ne suis pas assez important pour y figurer. Mais je suis presque sûr de mourir aujourd'hui.
Elle se tourne vers moi.
Je m'attends à la voir en larmes, à condition qu'elle m'ait cru.
Mais elle a un petit sourire. Presque sûr seulement ?
Oui.
Tu mourras de la colère d'Aphrodite.
Oui.
J'ai senti les effets de cette colère, Hockenberry. Si elle est d'humeur à te tuer, elle te tuera.
Voilà qui est encourageant. Je reste silencieux quelques instants, puis j'entends un bourdonnement provenant de la terrasse côté ville.
Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je. Ce sont les Troyennes qui adressent leur prière à Athénée, implorant sa pitié et sa divine protection, et lui offrant chants et sacrifices dans le temple qui lui est consacré, obéissant en cela aux ordres d'Hector.
Hélène se détourne à nouveau de moi, fouillant la cour du regard comme pour localiser l'oiseau qui s'obstine à chanter. Pour la pitié d'Athénée, c'est un peu tard, songeai-je. Puis, sans réfléchir, je déclare, « Aphrodite veut que je tue Athénée. Elle m'a donné le casque d'Hadès dans ce but, ainsi que d'autres objets. » Hélène tourne vivement la tête et en dépit de la pénombre, je vois que son visage a blêmi sous le choc. Comme si elle venait enfin de réagir à mes terribles prédictions. Toujours nue, elle vient s'asseoir au bord du lit où je suis étendu, appuyé sur le coude.
« Tu as bien dit, tu es Athénée ?»
demande-t-elle d'une voix quasi inaudible. J'acquiesce.
Les dieux seraient donc mortels.
J'ai presque besoin de lire ses lèvres pour comprendre ses paroles.
Je le pense.
Hier, j'ai entendu Zeus le révéler à Arès. Je raconte alors à Hélène ce qui est arrivé à Aphrodite et à Arès, lui décrivant leurs blessures et l'étrange hôpital où celles-ci sont soignées. Je lui explique qu'Aphrodite sortira de sa cuve aujourd'hui même. Peut-être en est-elle déjà sortie, car les jours et les nuits sont les mêmes à Olympos et à Ilium. Et il est sans doute déjà demain là-bas.
« Tu as le pouvoir d'aller à Olympos ?»
murmure-t-elle. Hélène semble perdue dans ses pensées. Son visage, naguère choqué,
arbore une expression que je ne saurais décrire.
« Tu es capable d'aller et venir entre Ilium et Olympus ?»
insiste-t-elle. J'hésite. J'en ai déjà trop dit, je le sais. Et si cette Hélène n'était autre que ma muse Morphée ? Je sais que cette crainte est infondée. Ne me demandez pas comment, mais je le sais. Et même si je me trompais, je n'en ai rien à foutre.
Dis-je, prenant soin de murmurer, moi aussi, bien que toute la maisonnée soit encore endormie.
Je peux aller à Olympos quand j'en ai envie et y rester sans être vu des dieux.
Si l'on accepte cet oiseau persuadé que le jour s'est levé, la ville et le palais sont plongés dans un étrange silence. Il y a des gardes en faction devant la porte, je le sais, mais je n'entends pas leurs pieds ou le bout de leur lance racler les pavés. Les rues d'Ilium, où le silence total est une rareté, semblent muettes. Je n'entends même plus les chants des Troyennes dans le temple d'Athénée.
Est-ce qu'Aphrodite t'a donné les moyens de tuer Athénée, Auchenberry? Est-ce qu'elle t'a confié une arme divine?
Non.
Inutile d'évoquer le casque d'Hadès, le médaillon Técu ou encore Montazer. Jamais il ne pourrait tuer une déesse.
Soudain, voilà que la dague refait son apparition à quelques centimètres de ma peau.
Mais où planque-t-elle ce truc? Comment s'y prend-elle pour le faire surgir de nulle part?
Chacun de nous a ses petits secrets, je présume.
La lame se rapproche de moi. Mais si je te tuais, est-ce que cela changerait le cours de ce poème épique sur Ilium?
Murmure Hélène.
Est-ce que cela changerait l'avenir? Notre avenir?
« Ce n'est pas le moment d'être franc, Tommy, mon garçon, » me conseille la partie la plus lucide de mon cerveau. « Mais je choisis de dire la vérité. »«
Je ne sais pas. »«
Je ne vois pas comment. »« Si c'est mon... ma destinée de périr aujourd'hui, peu importe que ce soit de ta main ou de celle d'Aphrodite, je suppose. »« Et puis de toute façon, je ne suis pas un acteur de ce drame, seulement un observateur. »
Hélène hoche la tête, mais elle paraît distraite, comme si cette question avait peu d'importance à ses yeux. Elle lève sa dague jusqu'à ce que la lame lui effleure le menton.
« Et si je mettais fin à mes jours, est-ce que cela changerait le poème ?»«
Je ne vois pas comment cela pourrait sauver Ilium ou modifier le cours de la guerre. »«
Ce n'est pas tout à fait exact. » Hélène est un personnage clé de l'Iliade et peut-être que les Grecs lèveraient le siège si elle venait à se suicider.
Pourquoi continuerait-il à se battre?
Pour la gloire, pour l'honneur, pour le butin. D'un autre côté, si Agamemnon et Ménélas se voyaient frustrés du trophée qu'elle représente à leurs yeux, Achille continuant pendant ce temps à bouder dans sa tente, les dizaines de milliers de guerriers achéens se sentiraient-ils encore motivés? Ça fait presque 10 ans qu'ils pillent les côtes et les îles de la région. Peut-être qu'ils en ont marre et qu'ils n'attendent qu'une excuse pour plier bagage. N'est-ce pas pour cette raison que Ménélas a accepté un combat singulier avec Paris, voyant Aphrodite le frustrer d'une victoire imminente? Paris a été transporté dans ce lit même où il a fait l'amour avec Hélène il y a quelques heures à peine. Peut-être que le suicide d'Hélène mettrait un terme à la guerre. Elle abaisse sa dague.
« Cela fait 10 ans que je songe à me tuer, Auchenberry. Mais j'ai trop d'appétit pour la vie et trop peu de tendresse pour la mort, même si je mérite de mourir. »«
Tu ne mérites pas de mourir. » Elle sourit.
« Hector mérite-t-il de mourir? Et son bébé? Et Sir Priam, qui est pour moi le plus généreux des pères? Et tous ces gens que tu entends se réveiller dans la ville, est-ce qu'ils méritent de mourir? Et quant aux guerriers, Achille, mais aussi tous ceux qui ont déjà rejoint le royaume des ombres, est-ce qu'ils méritent de mourir à cause d'une écervelée qui a préféré succomber à la passion et à la vanité plutôt que d'honorer ses vœux de fidélité? Et que dire des milliers de Troyennes qui ont bien servi leurs dieux et leurs époux, mais qui seront arrachés à leur foyer et à leurs enfants pour être vendus comme esclaves à cause de moi? Est-ce qu'elle mérite un tel sort, Auchenberry? Tout cela parce que j'ai choisi de vivre?
Tu ne mérites pas de mourir, répétai-je obstinément.
L'odeur d'Hélène parfume encore ma peau, mes doigts, mes cheveux.
« D'accord, »
dit-elle en glissant la dague sous le matelas.
« Alors veux-tu m'aider à rester vivante et libre ? Veux-tu m'aider à arrêter cette guerre ? Ou du moins à changer son cours ?»«
Que veux-tu dire ? Je commence à me méfier. Je n'ai aucun intérêt à aider les Troyens à gagner cette guerre. » Et même si je le souhaitais, j'en serais bien incapable. Il y a trop de forces impliquées dans cette histoire, sans parler des dieux.
Hélène, quand je disais qu'il me restait peu de temps à vivre, je ne plaisantais pas.
Aphrodite va sortir de sa cuve aujourd'hui. Et bien que je puisse me cacher aux yeux des autres dieux, elle a le pouvoir de me retrouver quand ça lui chante. Même si elle ne me tue pas sur le champ pour châtier ma désobéissance, je ne serai plus libre d'agir durant le temps qu'il me restera à vivre.
Hélène tire le drap jeté sur mon corps. Le soleil commence à poindre et je la vois mieux que je ne l'ai jamais vue depuis que je l'ai surprise au bain. Elle écarte les jambes pour m'enfourcher et pose une main sur mon torse tandis que l'autre se fait caressante, aguicheuse.
Écoute-moi, dit-elle en me toisant derrière ses seins. « Si tu veux changer nos destinées, tu dois trouver le pivot. »
Interprétant cela comme une invite, je tente de la pénétrer.
« Non, pas encore, »
chuchote-t-elle. « Écoute-moi, Hockenberry. Si tu veux changer nos destinées, tu dois trouver le pivot. Et je ne parle pas de ce que tu cherches à faire en ce moment. »
Non sans difficulté, je marque une pause pour l'écouter.
Une heure et demie plus tard, la ville se réveille et je marche dans ses rues équipé de mon attirail de scoliaste et déguisé en lancier Thrace. Le soleil s'est levé et Troie revient à la vie. Ses rues et ses marchés s'animent. Les animaux se mêlent aux enfants rieurs et aux guerriers se sustentant avant de reprendre le combat. C'est près de la place du marché que je trouve Knighton Elser. Il est déguisé en garde dardanien, mais je l'identifie grâce à mes lentilles, en train de prendre son petit déjeuner devant une taverne où nous avons nos habitudes. Il lève les yeux et me reconnaît. Je ne prends pas la fuite, pas plus que je ne coiffe le casque d'Hadès pour disparaître. Je m'assieds près de lui, à l'ombre d'un arbre, et commande un petit déjeuner composé de pain, de poisson fumé et de fruits.
« Notre muse vous cherchait dans les baraquements bien avant l'aube, » m'informe mon bedonnant collègue. « Et elle a poursuivi ses recherches ce matin sur les remparts. Elle exigeait nommément votre présence. Elle semble impatiente de vous localiser. »«
Craignez-vous d'être aperçu en ma compagnie ? Souhaitez-vous que je m'en aille ?»
Knighton Elser hausse les épaules.
« Nous autres scoliastes sommes tous en sursis, de toute façon. Pff, quelle importance !» Tempus edax rerum.
Cela fait si longtemps que je pense en grec ancien qu'il me faut une seconde pour traduire cette locution latine. Le temps qui détruit tout.
Certes, mais je tiens à durer. Je romps le pain chaud et le dévore à pleines dents, m'émerveillant de sa saveur et de celle du vin qui l'accompagne. Ce matin, je vois, je hume et je savoure toute chose avec des sens plus affûtés, plus vigoureux, plus fantastiques. C'est peut-être parce qu'il a plu cette nuit.
C'est peut-être à cause d'autre chose.
« Vous me semblez bien parfumé aujourd'hui, » remarque Knighton Elser.
Ma première réaction est de rougir. Se peut-il que mon collègue sente l'odeur de sexe émanant de ma personne ? Puis je comprends ce qui se passe.
Hélène a insisté pour que je me baigne avec elle avant de partir. La vieille esclave qui supervisait le transport de l'eau chaude n'était autre qu'Étrée, fille de Pythée, veuve du roi Égée et mère du célèbre Thésée. Le roi d'Athènes, celui-là même qui avait enlevé Hélène alors qu'elle avait 11 ans. Je me souvenais avoir lu ce nom durant mes études, mais mon professeur, le docteur Fertig, pourtant érudit en matière homérique, affirmait que Laède l'avait choisi au hasard en puisant dans le fond commun du genre épique.
Étrée, fille de Pythée, devait sonner agréablement à son oreille ou à celle de l'un de ses prédécesseurs, affirmait le docteur Fertig, et il était peu probable que la mère du noble Thésée ait fini au service d'Hélène dans la ville de Troie. Le cher professeur s'était planté.
une demi-heure plus tôt, alors que je me prélassais dans le bassin de marbre aux côtés d'Hélène, celle-ci m'avait confié que la vieille Étrée était bel et bien la maman de Thésée. Castor et Pollux, les frères d'Hélène, l'avaient enlevée en représailles lorsqu'ils avaient libéré leur sœur, et Paris l'avait fait suivre à Troie quand il y avait emmené Hélène.
« À quoi pensez-vous, Hockenberry ?»
me demande Nathan Elser. Je me sens à nouveau rougir. Car je pensais justement aux doux seins d'Hélène tels que je les entrevoyais sous la mousse. Je mange une bouchée de poisson et demande « Je ne suis pas allé sur le terrain hier. Il s'est passé quelque chose d'intéressant ?»«
Presque rien. Le duel entre Hector et Ajax, la confrontation que nous attendions tous depuis que les nefs achéennes ont abordé les rivages, la totalité du champ 7. »
Le chant 7 relate le passionnant combat opposant Hector au géant achéen, mais il ne s'y passe rien. Aucun des deux adversaires ne réussit à prendre l'avantage, bien qu'Ajax soit nettement plus fort qu'Hector, et lorsque le soir tombe, ils déclarent une trêve, échangent leurs armes et leurs armures, et puis les deux camps vont brûler leurs morts. Je n'ai donc rien raté de crucial, rien qui vaille la peine de déserter Hélène.
Il s'est produit quelque chose d'étrange, ajoute Nathan Elser. Je mange mon pain et attends la suite. Comme vous le savez, Hector était supposé ressortir de la cité avec son frère Paris, et tous deux conduisaient ensuite les Troyens en combat. Selon Homère, Paris tue Ménestios dès le début des
Oui.
Plus tard, Anténor, le conseiller de Priam, suggère à ses concitoyens de rendre Hélène aux Achéens, et avec elle ses trésors, afin qu'ils lèvent le siège et partent en paix.
Pendant ce temps, Ajax et Hector, ayant échoué à s'entretuer, font ami-ami et échangent des cadeaux sur le champ de bataille, c'est ça?
En effet.
Et alors? Nathan Elser pose son gobelet sur la table.
Eh bien, Paris était censé répondre à Anténor, demandant aux Troyens de ne pas livrer Hélène à l'ennemi, mais proposant de renoncer à ses trésors en échange de la paix.
Et je comprends où il veut en venir. Je sens mon estomac se nouer.
Eh bien, Paris brillait par son absence hier soir. On ne l'a vu ni franchir les portes C en compagnie d'Hector, ni tuer Ménestios, ni faire son offre de paix au crépuscule.
Je hoche la tête et mâche mon pain. Alors?
Alors? C'est une des discordances les plus importantes que nous ayons jamais constatées, n'est-ce pas, Hockenberry?
Je hausse à nouveau les épaules. Je ne sais pas. Dans le champ 7, on voit les Achéens construire une tranchée et une muraille défensive près du rivage, mais nous savons, vous et moi, que ces travaux ont été effectués dans le mois qui a suivi leur débarquement. Il arrive qu'Homère bouscule la chronologie des événements. Nathan Elser me fixe un instant.
Peut-être. Mais il est étrange que Paris n'ait pas été là pour réfuter les arguments d'Anténor. En fin de compte, c'est Priam qui l'a fait à sa place, affirmant que jamais son fils n'accepterait de renoncer à son épouse, mais qu'il serait peut-être disposé à rendre son trésor. Comme Paris ne se trouvait pas sur place, beaucoup de Troyens ont manifesté leur approbation. Durant toutes ces années que j'ai passées ici, jamais je n'ai senti la paix plus imminente, Hockenberry.
J'en ai la chair de poule. En m'attardant auprès d'Hélène, en usurpant trop longtemps l'identité de Paris, j'ai altéré le cours des événements de façon plus que sensible. Si la muse avait connu le déroulement de l'Iliade, elle aurait tout de suite compris que j'avais pris la place de Paris dans le lit d'Hélène. Avez-vous signalé cette discordance à la muse? En principe, Nathan Elser a achevé son service à la tombée de la nuit. Vu mon absence, il était le seul scoliaste présent sur le terrain. C'est son devoir de rapporter de telles bizarreries. Il mâche lentement sa dernière bouchée de pain.
Non,
lâche-t-il finalement.
Je n'ai pas consigné cela dans le logopètre.
Merci, dis-je dans un soupir.
Ne nous attardons pas ici,
dit mon collègue. Troyens et Troyennes apparaissent autour de la taverne, attendent que des sièges se libèrent. Tandis que je jette quelques pièces sur la table, Nathan Elser m'agrippe par le bras.
Est-ce que vous savez ce que vous faites, Hockenberry?
Je le regarde droit dans les yeux et lui réponds d'une voix ferme. Absolument pas.
Une fois dans la rue, je prends la direction opposée à celle que choisit Nightenhalser. Profitant d'une ruelle déserte, je coiffe le casque d'Hadès et active le médaillon TQ. Le soleil se lève sur le mont Olympe. Les bâtiments blancs et les pelouses vertes renvoient une lumière moins intense que celle que je viens de quitter.
Je me suis toujours demandé pourquoi le soleil paraissait plus petit au-dessus d'Olympos que dans les cieux d'Ilium.
J'ai visualisé le parking à char devant le temple de la Muse, et c'est là que je viens d'arriver. Je retiens mon souffle tandis qu'un char se rapproche du sol en décrivant une spirale et se pose à 6 ou 7 mètres de moi, mais Apollon en descend et s'éloigne sans même me remarquer. Le casque d'Hadès fonctionne toujours. Je monte dans son char et touche la plaque de bronze sur l'avant. J'ai observé la Muse avec soin l'autre jour, lorsque nous avons survolé le lac de la Caldeira. Une console lumineuse apparaît quelques centimètres au-dessus de la plaque. Je presse les icônes en suivant le même ordre que la Muse. Le char vacille, s'élève, vacille à nouveau, puis se redresse tandis que je manipule les contrôles virtuels près des voyants. Un coup à gauche et le char vire 15 mètres au-dessus de l'herbe. J'appuie sur la flèche orientée vers l'avant et le char prend son essor, survolant le lac bleu et mettant le cap au sud. Si un dieu observait la scène, il aurait l'impression de voir voler un char inoccupé, mais il n'y a aucun dieu dans les parages. Une fois au-dessus de la berge, je prends un peu d'altitude et m'efforce de localiser ma destination.
C'est ce bâtiment-là, juste derrière le grand hall des dieux.
Sur le perron de l'édifice, une déesse que je ne reconnais pas pousse un cri en pointant du doigt le char apparemment vide, mais il est trop tard. J'ai repéré le bâtiment qui m'intéresse. Il est grand, il est tout blanc et sa porte est ouverte. Je commence à me débrouiller avec les commandes. Et je descends à 5 mètres du sol pour foncer vers ma cible. Je dois incliner le char à 90 degrés ou presque. Je ne tombe pas car il est équipé d'une sorte de gravité artificielle pour passer entre les gigantesques colonnes. Ma vitesse approche les 100 km à l'heure. L'intérieur est conforme à mes souvenirs. Les grandes cuves emplies d'un bouillon violet, les dieux inconscients grouillant d'asticots verts. Le guérisseur, cet énorme mille pattes aux yeux rouges et aux bras de métal, se tient derrière la cuve de soins d'Aphrodite, se préparant sans doute à l'enfer émergé. Ses yeux rouges se tournent vers moi et ses bras multiples frémissent, tandis que le char fonce dans le silence. Mais ma cible est dégagée et j'accélère encore avant qu'il n'ait le temps de me stopper. Ce n'est qu'à la dernière seconde que je décide de sauter plutôt que de rester à bord.
Sans doute à cause du souvenir d'Hélène,
de la nuit que j'ai passée avec elle, du plaisir que m'apporte à nouveau la vie après ces heures avec elle. Toujours protégé par le casque d'Hadès, je saute du char pris de folie, atterris durement sur mon épaule droite, puis roule sur le sol pendant que le char emboutit de plein fouet la cuve de soins, pulvérisant l'acier et le plastique, projetant le liquide violet sur une hauteur de 30 mètres. Un objet tranchant, un éclat de verre ou d'acier, je ne sais, coupe en deux le guérisseur aux mille pattes. Le corps d'Aphrodite tombe sur le carreau dans un flot de liquide violet et un grouillement d'asticots verts. Les autres cuves, notamment celles où d'autres asticots s'affairent à soigner Arès, tremblent mais ne tombent point. J'entends résonner des sirènes assourdissantes. Je tente de me relever, mais ma tête, mon épaule droite et ma jambe gauche me font souffrir le martyre et je retombe sur le sol. Je rampe vers l'autre bout de la salle afin d'échapper à la bouillie violette. Non seulement je redoute sa morsure, mais en outre, je ne tiens pas à ce qu'elle révèle les contours de mon corps. Des taches noires dansent la gigue dans mon champ visuel, et je comprends que je vais m'évanouir. Dieu et robot volant accourent dans la vaste salle d'opération. Quelques secondes avant de perdre conscience, j'aperçois le puissant Zeus qui entre d'un pas précipité, le front ombrageux et la cape tempétueuse. Les prochains événements, quels qu'ils soient, devront se dérouler en mon absence. Je pose le front sur le carreau bien frais, ferme les yeux et laisse les ténèbres m'engloutir.